Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, merci de nous écouter. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Vous avez peut-être remarqué que le canal d'Ille-et-Rance a pris une couleur blanchâtre et une texture laiteuse entre Saint-Grégoire et Rennes ce début de semaine. La faute à une erreur humaine commise au sein de l'entreprise Etex Eternit, spécialisée dans la fabrication d'ardoises fibre-ciment. Appelée par l'entreprise selon Ouest-France, les pompiers confirmeraient que le pH du cours d'eau serait conforme. Sale temps pour les rivières bretonnes. La semaine dernière, 25 000 litres de fioul ont été reversés dans le Blavet, en Côte d'Armor. Cette fois-ci, c'est un groupe électrogène d'une usine d'eau potable à proximité qui aurait dysfonctionné. Il serait peut-être temps qu'on réalise que l'eau, ça ne tombe pas du ciel, non ? Enfin bref, tout de suite le flash d'Aglaé.
Avancée, inquiétude et silence. Des mots correspondant bien aujourd'hui à la situation ukrainienne. Hier, lors d'une rencontre américano-ukrainienne à Djeddah en Arabie Saoudite, l'Ukraine a accepté la proposition des États-Unis. Un plan de cessez-le-feu total de 30 jours avec la Russie à condition d'avoir son accord. En échange, le retour de l'aide militaire américaine, à savoir d'importants financements et des renseignements, entre autres. Si nous parvenons à obtenir l'accord de la Russie, ce sera formidable, s'est réjoui Donald Trump. Le président américain doit d'ailleurs rencontrer Vladimir Poutine dans les prochains jours. Pour le moment, ce dernier ne s'est pas exprimé à ce sujet. Jusqu'à présent, le Kremlin refusait catégoriquement le principe même de trêve et ne voulait rien concéder avant d'avoir obtenu la garantie que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, sera démilitarisée et changera de régime. Hier, un missile russe a explosé sur un cargo dans le port d'Odessa, au sud de l'Ukraine. 4 personnes ont perdu la vie. C'est bon, c'est officiel, les droits de douane de 25% sur l'importation d'acier et d'aluminium vers les États-Unis sont entrés en vigueur aujourd'hui, minuit une, et Eva nous en dit plus.
Un réveil très dur pour le monde entier ce matin, une nouvelle taxe douanière, je cite, sans exception et sans exemption. Les mots de Donald Trump datant du 10 février dernier résonnent encore dans les têtes des chefs d'État européens, canadiens, australiens, chinois et j'en passe. Lors de son premier mandat, déjà le président américain avait augmenté les droits de douane d'importation aux États-Unis, mais les deux nouveaux décrets signés à peine quelques jours après son investiture vont plus loin que les précédents, explique France 24. La nouvelle politique actée aujourd'hui concerne premièrement, je cite, « toutes les importations d'articles en acier et d'articles dérivés de l'acier provenant d'Amérique latine, d'Australie, du Canada, des pays de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Japon et de la Corée du Sud ». Et deuxièmement, toutes les importations d'articles en aluminium et dérivés de l'aluminium provenant essentiellement des pays riches cités au-dessus. Lors de son discours début février, Donald Trump a défendu ses décisions en disant que les importations d'acier, je cite, « mettent à risque la sécurité nationale et ainsi il souhaite protéger l'industrie sidérurgique du pays ». Cette décision est complètement à l'opposé de l'accord réalisé quelques années plus tôt par le président des États-Unis, Joe Biden, et la Commission européenne sur le même sujet. L'accord mondial de l'acier et l'aluminium durable, ou GASSA, avait pour but que les puissances coopèrent pour faciliter l'accès aux matériaux et se détacher des chaînes d'approvisionnement chinoises. Conclusion d'aujourd'hui, la Commission européenne regrette profondément les nouvelles mesures de Donald Trump et a décidé de lui faire entendre ses plaintes.
Mais comment ?
En jouant au même jeu, Aglaé. Dans un communiqué de la Commission européenne, il est estimé que 28 milliards de dollars de marchandises, soit 26 milliards d'euros, vont être touchés par ces nouveaux décrets américains. Les prix vont augmenter. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium sont mauvais pour les affaires et encore pire pour les consommateurs, confie Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Des emplois sont en jeu en Europe et aux États-Unis, conclut-elle. Alors voilà, le plan exposé par la présidente aujourd'hui. Phase 1, À partir du 1er avril, des contre-mesures qui étaient déjà d'actualité de 2018 à 2020, lors de la mise en place des précédents droits de douane américains, vont être rétablies. Phase 2, afin d'arriver au même impact économique des taxes états-uniennes sur l'Europe, mais inversement, une procédure a été enclenchée pour établir des contre-mesures supplémentaires à l'encontre des États-Unis. Harley Davidson, bateaux, alcool, soja ou encore des réfrigérateurs. Voilà les produits emblématiques américains dans le viseur des taxes européennes. Nous essayons d'être intelligents et de frapper où ça fait mal, explique un fonctionnaire européen reconnaissant cibler volontairement des produits provenant d'États républicains. Si la procédure aboutit, ces mesures additionnelles devraient entrer en vigueur mi-avril, décrit le communiqué de presse.
Et à part l'Europe, quelles sont les réactions des autres puissances mondiales ?
Bonne question, Aglaé. Pour l'instant, les réactions des pays divergent dans leur degré d'impact sur le commerce international de l'acier et l'aluminium. C'est-à-dire que, par exemple, la Chine a déjà pris des décisions augmentant les droits de douane chinois de 10 à 15% sur divers produits agricoles américains. Selon un article de RFI, près d'un quart de la production américaine de soja part vers la Chine. Les nouvelles mesures font donc très peur aux agriculteurs américains qui risquent de voir leurs bénéfices passer dans le rouge. Côté australien, le Premier ministre Anthony Albanese a exprimé son mécontentement avec ses droits de douane, je cite, totalement injustifiés. Mais le chef du gouvernement australien a rejeté toute éventualité de mesures attaquant réciproquement les États-Unis.
Et hier soir, chez les Irlandais, le Premier ministre Michael Martin et sa délégation sont arrivés à Washington pour célébrer une tradition datant de 1952. Oui, c'est bientôt la Saint-Patrick en Irlande et pour fêter ça, l'Irlande offre chaque année un bol de trèfle au président américain. Symbolisant l'histoire américano-irlandaise, Daniel Geary, professeur d'histoire américaine à Dublin...
Désolée, j'étais obligée.
T'es trop dedans. Ça y est.
J'ai foutu en l'air le reste du flash.
Conseille à son représentant de marcher sur des œufs, sachant que l'économie irlandaise est largement portée par des entreprises américaines que Trump rêve de rapatrier. Hier, je vous parlais des élections législatives au Groenland et aujourd'hui, nous avons les résultats.
Ah!
Le Parti démocrate de centre-droit et autoproclamé social-libéral a remporté ce scrutin avec 29,9% des suffrages. Favorable à une indépendance à terme du Danemark et jusque-là un parti d'opposition, démocrate a dépassé le parti nationaliste, partisan d'une émancipation rapide. La coalition sortante, composée d'Inuit, Atakati, Gitt... et de Siumut a, elle, largement été boudée par les électrices et électeurs. Aucun parti n'ayant obtenu la majorité sur les 31 sièges du Parlement, il s'agit maintenant de créer une alliance. La participation de ce scrutin s'est envolée à plus de 70%, peut-être un effet résultant de l'obsession de Donald Trump à s'emparer du Groenland. Aujourd'hui, nos universités et nos centres de recherche se mobilisent et l'État sera là pour accompagner les chercheurs américains. Voilà ce qu'a assuré aujourd'hui sur France Info Philippe Baptiste, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donald Trump, depuis sa nouvelle élection, a en effet décidé de procéder à des licenciements et à d'énormes coupes budgétaires dans plusieurs agences fédérales scientifiques. Certains mots comme femme, genre ou climat ont été interdits dans les travaux de recherche. Selon Philippe Baptiste, cela aurait un impact non seulement aux États-Unis, mais aussi mondial, parce que les États-Unis ont joué un rôle de plateforme internationale pour la recherche. En réponse à cela, des organismes de recherche et des universités sont appelés à accueillir des chercheuses et chercheurs américains en difficulté. C'est le cas de l'université d'Aix-Marseille qui a récemment lancé son programme Safe Place for Science, comprenez un lieu sûr pour la science. Elle compte débloquer 10 à 15 millions d'euros afin de soutenir les travaux d'une quinzaine de chercheurs et chercheuses. Lundi, une première chercheuse a été accueillie. Elle devrait pouvoir y rester 3 ans. Que pensez-vous du débat sur l'utilisation des intelligences artificielles ?
On les déteste. On les hait.
Eh bien, pour plusieurs...
Ça pollue, en plus.
C'est vrai, c'est
elles
vrai.
Vont nous remplacer.
Oui.
Alors,
elles vont nous voler notre travail.
Aïe, aïe, coup dur. Mais eh bien, pour plusieurs organisations représentatives des éditeurs, éditrices et auteurs, autrices, la réponse aussi est toute trouvée. C'est derrière les barreaux. Encore faudrait-il oui. pouvoir mettre des IA derrière le
On valide.
On valide. Aujourd'hui, le Syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres, et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs ont saisi le tribunal de Paris. Ils et elles entament les poursuites contre Meta, maison mère de Facebook et Instagram. Pour violation des droits d'auteur, ils et elles l'accusent d'avoir utilisé des œuvres sous droit pour concevoir et améliorer des IA. En janvier 2024, pour une autre affaire judiciaire, cette fois aux États-Unis, Meta admettait avoir des livres sous droit dans sa base de données. Le groupe se justifia alors en parlant d'un usage raisonnable. François Perroni, président du Syndicat national des auteurs et des compositeurs, a expliqué vouloir préserver les auteurs et autrices des dangers de l'IA qui pillent leurs œuvres et le patrimoine culturel pour s'entraîner. Il valait mieux avoir un bon odorat ce matin à l'université de Rennes. Une odeur suspecte a causé l'évacuation de 200 personnes du bâtiment 10C du campus Beaulieu. L'odeur en question, mystère et boule de gomme. On sait seulement qu'il s'agissait d'une odeur anisée provoquant une sorte d'irritation de la gorge. Rassurez-vous, la cellule des pompiers spécialisée dans les risques chimiques est intervenue rapidement. Les locaux ont été ventilés et aucune personne sur place n'a eu besoin de soins médicaux. La source de l'odeur est toujours indéterminée.
On y croit, oui.
Et le mapping lumineux, vous connaissez ?
Non.
Cette discipline artistique consiste à projeter sur des bâtiments des visuels divers, de sorte à créer un lien entre contenu et architecture. Une pratique de plus en plus répandue, mais pouvant consommer beaucoup d'énergie. Trois créatifs venant du Sud et de Rennes se sont donc décidés à lui trouver une alternative low-tech. Et ils ont réussi, et en ont fait le collectif éponyme de leur festival, Visiophare. Paul, artiste numérique et co-organisateur du projet, nous en dit un peu plus sur cette deuxième formule d'un événement quasi unique en France qui démarre aujourd'hui.
Visiophare, c'est le nom qu'on a donné au festival, mais c'est aussi le nom qu'on donne aux projecteurs, puisque de base on est parti de juste transformer des vieux rétroprojecteurs qu'on récupérait sur le Bon Coin ou dans des brocantes ou auprès d'écoles, et qu'on transformait en leur mettant une LED à la place de l'ampoule à filament, pour consommer moins d'énergie et avoir plus de puissance de projection. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant et pratique de créer notre propre design de rétroprojecteur en open source. Donc tout est partagé pour que les gens, s'ils ont envie, puissent se fabriquer des visiophares en autonomie. Et on fabrique nos propres projecteurs, donc en bois, avec des matériaux récupérés, avec des lentilles quand même, et des systèmes optiques qu'on va recycler sur les vieux rétroprojecteurs. Donc on fait du réemploi à ce niveau-là. Et après, il y a des éléments qui sont fabriqués assez facilement, à la main avec des outils à bois de base ou en Fab Lab, accessible en général au plus grand nombre et pour pas très cher. Du coup, le festival Visiophare, déjà dans l'ensemble, il a pour but de faire se rencontrer les gens, partager des créations autour de la projection analogique. Donc il n'y a pas uniquement des rétroprojecteurs, il y a aussi du Super 8, du 16 mm. On vient comme ça montrer des façons de faire de l'art les plus variées possibles avec des systèmes de projection non numériques, donc plutôt analogiques. Et cette année, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on était à Hôtel Pasteur pendant une journée. Et là, cette année, on est sur trois journées dans trois lieux. Donc jeudi, il y aura de 18h à 00h30 l'événement principal du festival aux Ateliers du Vent. Et là, il y aura une exposition de projection, des ateliers d'initiation à la projection analogique, des DJ sets, des performances live de liquide projeté, du liquide light show donc. Et il y aura également de la projection architecturale dehors, accompagnée de musique dansante tout le long. Et c'est en entrée prix libre. Et le dernier jour du festival, le samedi 15 mars, là ce sera un atelier à l'Edulab Pasteur, qui se trouve dans l'hôtel Pasteur. Et là ce sera un atelier entrée prix libre, de 14h à 18h, d'initiation à la projection analogique, accès, mapping, et vraiment travailler entre la création.
Merci Cyriane pour ce reportage, et si vous êtes intéressé pour rejoindre le projet et savoir à votre tour fabriquer votre propre projecteur, rendez-vous sur leur Insta, @visiophare. De plus, ils et elles recherchent encore des bénévoles pour le festival, alors foncez. Est-ce que vous n'auriez pas une envie d'aller voir du théâtre ? Si, tant mieux. tous les jours. Eh bien, alors c'est le moment, entrer dans l'arène. Littéralement, demain commence le festival Entrer dans l'arène. À 16h, au plateau E à l'université Rennes 2, vous pouvez participer à l'atelier de théâtre Pig Boy. À 20h, l'Arène Théâtre, l'organisme en charge du festival, vous propose la pièce Belle-Mort, salle Pinabauche. Et si jamais vous avez raté tout ça, rassurez-vous, le festival dure jusqu'au vendredi 21 mars et c'est gratuit. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.larene-du6théâtre.com.
Merci beaucoup, Aglaé. Pouce flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Veste marron et pins brûlés, le patriarcat, c'est Céline. Cardigan et pins plus poétique avec une petite fée, ça c'est Marie-Laure. Elles sont toutes les deux membres de l'association Bidouille. Bonsoir.
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 Vous venez nous parler ce soir d'un événement de votre association qui s'appelle Bidouillon l'égalité. Peut-être avant de commencer, quelques mots sur l'association en elle-même. Depuis quand elle existe? Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association?
Alors l'association Bidouille existe depuis 2003. Donc ça fait 22 ans. C'est une association qui est localisée à Cornu, qui fait que ses activités à Cornu. L'objectif de l'asso, c'est créer des événements divers et variés pour rassembler les gens, en fait, créer du lien social. Il y a quand même des valeurs fortes au niveau de l'asso, des envies de partage, de convivialité, d'échange, de joie, et puis aussi des sujets de réflexion autour de la politique, de l'écologie, du féminisme, etc.
D'accord.
Voilà, en gros.
Et l'asso, elle fonctionne uniquement avec des bénévoles, c'est ça?
Ouais, il n'y a pas de salariés. Okay. On est une bonne bande de bénévoles. Mmh. Et on a un statut particulier, on fonctionne en collégial. Il n'y a pas de président ou présidente. Voilà, on est 7 responsables légaux et il y a une personne qui gère tout ce qui est trésorerie. Mais c'est tournant, quoi. Il n'y a pas de choses très attribuées, quoi. Ouais.
D'accord. Et donc cet événement Bidouillon l'égalité qui a lieu samedi, quel est son but?
Le but, c'est de nous faire réfléchir, mais de façon ludique, joyeuse, à l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment. Bon, c'est le sujet, on est autour du 8 mars et c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Depuis d'ailleurs plusieurs années, parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise un événement autour de ce sujet-là. Et on a fait peut-être d'abord un sujet autour du théâtre avec les monologues du vagin, il y a quelques années. Puis d'accord. Ensuite, on avait fait quelque chose autour de la projection du film À la vie, qui était l'histoire d'une sage-femme et de tout ce qui se passe autour du postpartum. Et puis des femmes qui sont parfois en difficulté sur cette période-là. Et cette sage-femme, c'est une sage-femme qui était engagée autour de l'avortement au moment où ce n'était pas encore autorisé. Donc, il y avait vraiment un témoignage très poignant et militant qui était super à cette occasion. On a aussi projeté le film « L'histoire d'un secret » aussi autour de l'avortement qui se passe, lui, à Rennes, qui est un témoignage des filles de la peintre...
Mariana Otero.
Merci, Céline. Et puis, cette année, qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
On a aussi projeté le film « Debout les femmes » de Gilles Perret, il y a 2-3 ans. Ouais.
D'accord. Je vous propose qu'on parcourt un peu la prog de ce samedi. Mm-hmm. Peut-être d'abord sur l'atelier d'écriture, donc sur le thème de l'amitié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer?
Ouais. Alors, cet atelier, il est porté par Bérangère Hamon, qui est poétesse et autrice. C'est une locale, hein. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés à un cours de yoga sur notre commune, donc c'est hyper sympa qu'elle nous rejoigne dans l'équipe. Bérangère, elle propose là un atelier autour de l'amitié. Ça, c'est un sujet qui nous cause un peu au niveau de l'association, parce qu'on trouve qu'au niveau des rapports humains... Et au niveau sociétal, on parle beaucoup de l'amour, de la famille, et on trouve que l'amitié, elle est vraiment mise à l'écart. Et ça, on trouve ça hyper dommage, parce que c'est quand même une structure hyper forte dans la vie, quoi, d'avoir des amis autour de soi, de se sentir en communauté, de se sentir soutenu. Enfin, voilà, donc on s'est dit qu'un atelier d'écriture autour de ce thème-là, ça pourrait être super sympa.
Et voilà. Comment vous liez ce thème de l'amitié à l'égalité? Enfin, est-ce qu'il y a des... Des liens possibles.
enfin, au départ, on voulait un peu l'appeler le thème autour de la sororité, l'amitié entre les femmes, qui est une, on trouve que c'est plutôt une force quoi aujourd'hui de voir les femmes se rassembler, de parler, de dénoncer et de voir qu'on n'est pas toutes seules face à des choses qui peuvent se passer. Et puis en fait, c'est vrai qu'on se questionne beaucoup au sein de l'association, même par rapport à nos copains qui sont hommes, qui se demandent quelle place prendre dans le féminisme. Nous, on n'a pas du tout envie de les écarter, au contraire. Pour nous, c'est le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est main dans la main, on avance, on continue ensemble, on réfléchit. Donc on l'a appelé amitié, donc voilà, c'est la continuité de la démarche, quoi.
D'accord. Oui, et puis on peut aussi même évoquer les amitiés entre hommes, les enfin tout
est mélangé,
tout
quoi.
Tout est mélangé et tout est ouvert.
Ouais.
Autre atelier, un atelier chant cette fois, pour apprendre la Lega. Qu'est-ce que c'est ?
Voilà, alors il s'agit d'un temps participatif de chant polyphonique féministe. Ça sera 2 heures avec la chanteuse et musicienne Camille Lachenal, qui va présenter une chanson de lutte italienne. En fait, la Lega, c'est une chanson de lutte italienne. Et en fait, elle reprendra un arrangement de ce chant qui a été proposé lors d'une manifestation de la foule chantante Soror. En fait, c'est intéressant parce que c'est aussi un répertoire de chants local qui peut être connu par d'autres personnes qui ont déjà chanté avec Soror. Donc, on les invite éventuellement à nous rejoindre parce qu'après, l'idée, c'est aussi que ce soit peut-être présenté à la fin de ce temps collectif que, et les lectures, enfin, et les écritures qui sortent de l'atelier d'écriture et ces chants soient présentés collectivement aux autres personnes.
D'accord. Et en parlant de chant, j'ai vu mention dans le programme de la chorale Bidoui. Vous avez une chorale aussi au sein de l'association,
ouais,
c'est ça ?
Oui, on a une chorale depuis 5 ans à peu près, qui était portée à un moment donné par un certain Tanguy Sévelec. Et là, elle est portée par Camille Lachenal, justement.
Ouais. D'accord. Ok. Que dire aussi des jeux, stands et livres à disposition pour échanger ? Donc là, c'est encore une volonté d'échanger, peut-être de se construire ou de se déconstruire sur certains sujets, c'est ça ?
Exactement, d'aller se frotter aux autres, d'essayer de voir quelles sont les convictions des uns et des autres et d'en parler. Mais ça, ce sera autour d'une buvette qu'on ouvrira à ce moment-là pour se réconforter, boire et manger quelque
aussi.
Chose de, voilà, de sympa ensemble. Et en fait, on va pouvoir bénéficier, profiter d'une bibliothèque itinérante qui est installée par Mélissa. Sa bibliothèque s'appelle La Fulgurante et elle va animer un atelier. En fait, sa bibliothèque, c'est une bibliothèque autour des questions de féministes et de genre en général. Et elle propose des ateliers autour de ces questions-là et des questions de sexualité. Alors évidemment, s'il y a des enfants, c'est bien qu'ils soient accompagnés. Et sinon, c'est possible aussi de faire des parties de jeux juste entre enfants. Dans tous les cas, de toute façon, Mélissa pourra adapter les jeux aux âges des participants.
C'est pour tous les âges.
Exactement. Mmh. Tous les âges, tous les sexes et tous ceux qui veulent venir échanger avec nous.
Et donc la buvette et puis aussi un peu à manger, c'est ça ?
Ouais, alors dans l'assaut, on kiffe vraiment la cuisine.
C'est ce que j'ai cru
ça,
voir.
Ça, c'est un truc qui nous rassemble beaucoup. On organise parfois des festivals culinaires ou des festivals et on cuisine. On apporte beaucoup de valeur à ça. Et on aime le faire. Et du coup, là, il y a une équipe de cuistots là, qui s'est constituée. Et donc, on vient de faire les courses là, cet après-midi. On en arrive, c'est un peu pour ça qu'on est un peu spidouille. Et donc, là, on propose un plat bio et végétarien. Et puis, avec un petit dessert, voilà.
Et puis, après avoir mangé, le temps fort de cette soirée, c'est quand même les concerts avec Argalouve et les Vagins Enchantés, c'est ça ?
Ouais.
Alors, Argalouve, on connaît bien, vous pouvez quand même en dire quelques mots, si vous le souhaitez.
Ouais, tu veux causer, Marie-Laure ou...
Vas-y, c'est tu connais.
Alors, Argalouve, on l'a vu en concert à Rennes l'année dernière dans le cadre de I'm From Rennes au Grand 8. Et on avait bien aimé son spectacle parce qu'on trouve que c'est pas uniquement de la musique, enfin, c'est du rap. Mais on trouve que c'est assez élaboré comme spectacle parce qu'il y a quand même une mise en scène. Elle change de costume, elle va dans la foule. C'est très dynamique et puis c'est très humoristique aussi. Et ça, on aime bien, quoi. Mais et ce qu'il y a en plus, c'est vraiment le discours,
engagé,
quoi.
Engagé. Ouais,
les textes super engagés où on peut se retrouver. Et, ouais, ça nous parle à fond, quoi.
Et donc, sur Syllab, on connaît bien Argalouve, mais on connaît moins les Vagins Enchantés. Alors, ben qu'est-ce que c'est que ce groupe?
Donc, en fait, c'est un collectif de DJ traînaises, d'ailleurs. Et là, il y aura Louise, alias La Chatte. Et elle va nous passer du R&B. Elle a un petit faible pour les années 90, le rap, le rock, la pop et même la chanson française. Elle va nous faire une sélection de morceaux qui, enfin, sa sélection qu'elle aime, c'est les choses qui lui procurent de la joie. Et généralement, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est contagieux. Donc, on a vraiment hâte de passer ce moment-là avec elle. Et elle aime bien, à la fin, elle nous précisait aussi passer un peu d'électro en fin de soirée, histoire de bien se défouler avant de rentrer. Donc, on a quelque chose d'assez complet.
Ok. Et donc, il y a d'autres DJ qu'on peut mentionner ou...
Ouais, ça sera la seule qui viendra. D'accord, okay. Mais c'est vrai que c'est un collectif, elles sont plusieurs.
Ok.
Alors on connaît pas les autres, mais voilà, on connaît Louise, La Chatte.
D'accord. On précise que cette journée est à prix libre. Par contre, vous conseillez quand même de vous inscrire, c'est ça?
Ouais, pour un peu estimer la jauge, estimer le repas.
Voilà, le repas, on a mis un tarif. Alors, c'est que du fait maison, bio, tout ça, on s'est bien engagé. Ouais. C'est vrai que c'est chouette pour nous de savoir un peu combien de personnes on attend pour qu'on puisse vous faire suffisamment à manger.
Ouais.
Donc, on a mis 5€, un wrap végétarien. Mm-hmm. Et puis, il y aura un dessert surprise. Il y aura aussi des petits biscuits à l'heure du goûter, des boissons faits maison, du jus de gingembre, du bissap, de la bière locale à Cornu, on a la Sainte-Colombe.
Et voilà. Pour s'inscrire, du coup, il y a une adresse mail, un numéro, comment on fait?
Eh bien, on a ouvert sur la plateforme Hello Asso, là, on peut s'inscrire. Donc ça s'appelle Bidouillons l'égalité, c'est le nom de l'événement, Bidouillons l'égalité sur Hello Asso. Et là, tout est expliqué, en fait. Il y a tous les liens, tous les tarifs, les tarifs à prix libre pour les spectacles et ateliers.
C'est ça. On a mis des prix conseillés, mais évidemment, on a envie d'ouvrir parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi beaucoup dans notre asso, d'ouvrir, que le prix ne soit pas forcément une barrière. D'ailleurs, on a des événements, notamment des zones de gratuité, pour vraiment faire circuler les objets et que l'argent ne soit pas la valeur au cœur de nos vies, quoi.
Et puis sinon, je voulais quand même rajouter par rapport au transport, s'il y a des Rennais qui veulent venir, il y a possibilité de prendre le bus 73 jusqu'à Cornu. Alors malheureusement, il ne fait pas l'aller-retour, il ne fait que l'aller. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait peut-être faire évoluer.
Peut-être un système de covoiturage à organiser entre les participants.
Ouais, ça peut être ça. Et sinon, à Cornu, il y a un taxi qui vient de s'ouvrir là. C'est une voiture électrique qu'on peut remplir... Voilà, il y a cette proposition-là. Ouais.
C'est bon à savoir. J'en profite que vous êtes là aussi pour vous demander si vous avez des événements à annoncer pour les semaines, les mois à venir avec l'asso, parce que globalement, je crois que vous proposez des rendez-vous un peu tout au long de l'année qui reviennent comme ça.
Vas-y, Marie.
Donc, la zone de gratuité dont je parlais tout à l'heure, qui est un événement biannuel là, depuis plusieurs années, qu'on a mis en place au printemps et à l'été, où l'idée, c'est vraiment ni fric, ni argent, enfin vraiment, c'est vraiment on troque, quoi. On échange, on vient déposer, on n'est même pas obligé de déposer des choses pour pouvoir en prendre.
Ouais, c'est libre, on ne surveille rien, quoi. Ouais.
Exactement. Et donc, il y a aussi une armoire à dons, d'ailleurs, qui a un peu découlé de cette action-là qu'on avait deux fois par an, qui est vraiment fixe sur la commune, dans un petit coin protégé sous un porche à Cornu.
Donc, les gens peuvent ramener des objets, c'est
exactement,
ça
en ramener, en prendre. Et donc, notre prochaine zone de gratuité sera le 26 et 27 avril prochain. Et puis, on a un troc de plantes, là, cette fois, parce que la nature et l'environnement, ça nous tient à cœur aussi. D'ailleurs, l'année prochaine, un grand événement, mais là, on n'a pas du tout encore la date. Ouais. C'est dans les cartons, encore, cette idée.
Okay.
Et donc, la date du troc de plantes, Céline, je ne l'ai pas en tête.
Je ne sais plus si c'est avril ou mai.
Il faudra aller sur les réseaux sociaux pour se renseigner.
Voilà.
Puis vous nous tiendrez au courant dans 6 heures et demie de ce qui va se passer. De toute façon, je compte sur vous.
Merci
en tout cas d'être venu. Je le redis, donc Bidouillons l'égalité, c'est ce samedi à la salle de la Rouette de la MJC de Cornu. Ça se passe de 16h à minuit, c'est bien ça?
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci, c'est sympa.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Les réseaux sociaux en ébullition, une prophétie devenue réalité. Hier soir, le PSG a marqué l'histoire de la Ligue des Champions et parmi les héros célébrés, deux noms brillent particulièrement, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, deux pépites de la formation rennaise qui ont porté le PSG vers la victoire. Marilyn vous raconte tout dans sa chronique sport.
Bonsoir.
Bonsoir Marilyn.
Bonsoir. Et oui, hier, après le dernier tir au but frappé par Désiré Doué, joueur formé au Stade Rennais, après 120 minutes de football plaisant à regarder, l'ambiance à Anfield ressemblait à ça. Et oui, tous les fans du PSG ont sans doute crié au stade, dans un bar ou bien même dans leur salon, cri que je n'ai pas effectué personnellement car il était quand même 23h45. C'était la fin de l'anniversaire de mon petit frère que je salue au passage et l'ambiance ne s'y prêtait tout simplement pas. Donc j'ai simplement fait un cri silencieux, des petits sauts et j'ai tapé dans les mains. Soulagée par cette qualification historique pour plusieurs points. Jamais un club français ne s'était imposé dans le stade des Reds, donc de Liverpool, lors d'un match retour de Coupe d'Europe. 7 matchs pour 7 victoires pour les Anglais. Et en 40 ans, aucun club français n'avait remporté de séance de tir au but. En C1, donc appelée Coupe des clubs champions européens jusqu'en 92, puis en Ligue des champions, nous apprend Optagent. Et c'est arrivé une nouvelle fois le 11 mars. Et oui, et les joueurs savaient la particularité de cette date, ce qui rend encore plus symbolique cette qualification.
Ouais, une qualif exceptionnelle. J'avais vu, on m'avait montré quelques photos du 11 mars pour le Paris Saint-Germain. Une date qui est marquée par tout le club. Et venir ici le 11 mars refaire, se qualifier, ouais, c'est exceptionnel.
Comme l'a dit Ousmane Dembélé, que j'aime appeler Capitaine Crochet, en raison de son aisance technique, une prophétie existe autour du 11 mars et explique mon soulagement lorsque j'ai appris la date. En effet, en allant sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG et un article de l'équipe écrit par Tom Lacaille débutant par cette phrase « Que croyez-vous ? Que vous croyez au destin ou non, pardon, parfois il faut savoir s'approprier de quelques signes. Et les signes, que sont-ils ? Petit retour en arrière. » Il suffit d'un match retour de Ligue des Champions un 11 mars et un cycle de 5 ans. Et la magie opère. En 2015, 8e de finale de la compétition, après un match nul 1-1 contre Chelsea, le PSG s'est qualifié après l'égalisation de Thiago Silva. Un de mes premiers souvenirs marquants sous QSI. On avait donc fini à 10 contre 11 suite à l'expulsion d'Ibrahimovic. Et grâce à la règle du but à l'extérieur qui compte double, le match de 2 nous a été favorable. Je ne vais pas m'étendre, mais c'était un ancien joueur de Chelsea, David Luiz, qui nous avait permis d'arracher la prolongation. Ensuite, en 2020, pareil, 8e de finale, dans des conditions particulières. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ?
Bah, tu vas nous le dire.
Oh là là, il y avait le Covid. Et donc, du coup, le match s'est joué à huis clos. Les ultras étaient devant le stade. Ils poussaient l'équipe avec leur chant. Les joueurs emmenés par Tourelle et Neymar renversent le Borussia Dortmund alors qu'on avait perdu 2-1 chez eux. Grâce au but de Bernat et de Neymar qu'on a pu se qualifier. Une photo iconique en est ressortie, celle de Di Maria, qui rappelle ce bon souvenir à la communauté parisienne. Bon, parcours qui s'est terminé par une défaite en finale. Face à une autre équipe allemande, le Bayern Munich sur un score qui rappelle la double confrontation opposant Liverpool et le Paris Saint-Germain, 1-0. Pour revenir sur le contexte de ce match, à l'aller, c'était qui a eu lieu la semaine dernière, c'était un peu frustrant. En effet, après le coup de sifflet final, les joueurs étaient frustrés mais unanimes après dans le vestiaire. Ils ont clairement dominé le match et croyaient fermement en leur qualification au match retour à Anfield. En effet, ils avaient quand même tiré 27 fois au but, dont 10 tirs cadrés pour 0 but. Et Liverpool avait tiré 2 fois pour 1 but. Et oui, le seul but de la rencontre. Pour le retour, le match a duré 120 minutes, comme je le disais tout à l'heure. Et les supporters, du coup, et les supportrices, on n'en pouvait plus. On a pu y croire jusqu'au bout grâce au but dès la deuxième minute de Dembélé. Lancé par Nuno Mendes, trouvé dans l'axe, il décroche, puis allonge et puis il marque. Bon, ce n'était pas le plus beau but, mais c'était un but très important. Et ils ont été immenses et impressionnants pendant tout le reste du match. Ils ont su souffrir, y mettre leur trip sur le terrain. Et ils sont restés concentrés, surtout lors des prolongations. Oh là là, ces prolongations. J'ai cru que j'allais pas y survivre, je ne vais pas vous mentir. Bon, du coup, on n'a pas réussi à marquer pendant ces prolongations et on a fini au tir au but. Tir au but où Donnarumma s'est illustré comme il a pu le faire à l'Euro 2021 en arrêtant deux tirs, ceux de Nunez et de Jeunesse. Et les buteurs côté parisien, Vitinha, Ramos, mais surtout de René, Dembélé et Doué. Et ici, à Silab, on n'est pas très loin d'un club qui s'appelle le Stade Rennais, qui est un club formateur, le meilleur en France depuis 2 ans. Et qui a été mis en avant par le Centre international d'études du sport parmi les clubs formateurs ayant aligné le plus de joueurs dans les ligues du top 5 européen depuis 20 ans. Il se trouve à la 6e position. Et du coup, comme je disais, on peut y compter 2 joueurs, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui ont été les 2 derniers tireurs de la capitale. Honneur aux jeunes d'abord. Désiré Doué, il a fait une bonne entrée remarquable lors de cette confrontation et on le surnomme l'héritier de Neymar tant son jeu plein de personnalité a demandé le ballon, dribblé, dirigé, attiré et dynamité, tout simplement à prendre des risques, a été une bouffée d'air pour tous les Parisiens et notamment ses coéquipiers. Et il nous rappelle notre joueur qui est parti, qui s'appelle Neymar Junior. À seulement 19 ans, il est rentré dans l'histoire parce qu'il est devenu le plus jeune joueur à inscrire le but de la victoire lors d'un match. Lors d'une séance de tir au but. Et avant de conclure cette chronique, je ne pouvais pas saluer et mettre en avant un autre aîné de formation découvert en 2015 du nom de Ousmane Dembélé. Dans le monde du football, tout le monde savait qu'Ousmane Dembélé était bourré de talent, depuis très longtemps même. C'était devenu pour certains une boutade, car il n'arrivait pas à confirmer. Et oui, il n'avait pas les stats incroyables et des matchs références. Mais l'ancien pensionnaire de Rennes a confirmé dès le début de cette année et il a mûri. Il a marqué hier ses 29e et 30e buts de la saison, rien qu'en 2025. Il est donc le joueur parisien à avoir le meilleur ratio devant Ibrahimovic ou encore Kylian Mbappé. Pour conclure, il faut surtout féliciter le coach Lucho, Luis Enrique pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait un travail incroyable. Et son staff aussi, il faut le saluer car on n'avait quasiment pas 2 blessés, ce qui est quasiment incroyable. Pour conclure, cette victoire est bien plus qu'une simple qualification. C'est un message envoyé à l'Europe entière. Le PSG est de retour avec son équipe jeune. Et donc du coup, on va attendre sagement de connaître l'adversaire qu'on aura en quart de finale, à savoir Aston Villa ou le club de Bruges. Aston Villa qui est mené par Unai Emery, un ancien du PSG. Et oui, qui était appelé la pompe à vélo par les journalistes français. Donc ce soir, je vais regarder tranquillement le match. Et ensuite, on verra dans une prochaine chronique qu'est-ce qui va se passer.
Bah merci Marilyn, bon match. Et puis à bientôt du coup pour une nouvelle chronique.
Et oui.
Et si on s'écoutait le répondeur de 6h avant minuit.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Silab, la radio sauvage.
Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez pas appelé?
Oh non!
Le répondeur
toujours
est vide.
Pas de message.
Mais
non.
Faut se reprendre là. On veut vous entendre. Je suis sûre que vous avez des choses à dire. Et je sais qu'il y en a qui nous écoutent.
Oui, oui.
Oui.
Oui. Un peu de courage.
Parlez-nous. Ne nous laissez pas seuls autour de notre table. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On vous écoute et on diffusera votre message à la fin de cette émission. Allez, on y va maintenant. 02 30 96 25 35. Merci Marilyn pour la technique et à demain.
Merci.
Si la radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard. Mais en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'Europa.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Silab,
la radio sauvage.